fois, processus électoral en RDC, ce dimanche 25 juin, fera intervenir la convocation par la CENI de l'électorat pour la députation nationale. Pendant ce temps, Martin Fayoulou, président du parti politique SID, parti de l'opposition, a annoncé que son parti ne déposera pas les candidatures de ses membres à tous les niveaux des élections tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent à la matière. Cependant, semble pour la République de Moïse Katumbi a affirmé pour sa part qu'il reste engagé dans le processus électoral en cours. De son côté, l'ancien président Joseph Kabila a réitéré la position de sa famille politique de ne pas prendre part au processus électoral, car il qualifie cela de chaotique et frauduleux. Quel est tout faire de cette situation? Nous en parlons ce soir avec le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologie en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Radio Capi.
Jonas Tombel avec moi dans ce studio, il est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Il vient de publier d'ailleurs un rapport sur le processus électoral en cours en RDC. Jonas Tombel, bonsoir.
Bonsoir.
Et Luc Lutsala est également avec nous dans ce studio, chargé des communications, de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simoncelles en sigle. Luc Lutsala, bonsoir.
C'est un plaisir, bonsoir madame.
Vous êtes déjà très nombreux, chers auditeurs de Radio Capi, à réagir au thème de ce soir. C'est le cas d'Elvis Maungu depuis Baraka Fizbi au sud Kivu. Tout ce que nous demandons à la CENI, c'est de nous organiser des élections qui seront crédibles, inclusives et apaisées. Blaise Moua et Mohamed Eli, ces élections seront les plus chaotiques et contestées que la RDC ait jamais connues. Faut croire que la démocratie en RDC devient de plus en plus régressive. À Matadi, dans la province du Congo central, vous nous suivez sur la 102.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, processus électoral en RDC, ce dimanche 25 juin que va intervenir la convocation par la CENI de l'électorat pour la députation nationale. Pendant ce temps, Martin Fayoulou, président du parti politique SID, a annoncé que son parti ne déposera pas les candidatures de ses membres à tous les niveaux des élections tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent en la matière. Cependant, on semble pour la République de Moïse Katumbi a affirmé pour sa part qu'il reste engagé dans le processus électoral en cours. Du côté de la CENI, on se veut rassurant. Joseph Senda, directeur des opérations à la CENI, assure qu'il y aura bien élection cette année et que le calendrier électoral sera respecté. On l'écoute.
Ce sont des politiques, s'ils veulent bien, qu'ils s'arrangent pour arrêter le processus, mais pas la CENI. Ce sont des acteurs politiques. Ils ont ce pouvoir-là d'arrêter le processus s'ils veulent, mais qu'ils ne comptent pas sur la CENI pour arrêter le processus, parce qu'il n'y a pas de raison de l'arrêter. Et là, nous faisons remarquer qu'il ne faut pas oublier que nous avons commencé avec 28 mois de retard. Donc ça peut expliquer en partie que le calendrier ait été un peu comprimé. 28 mois de retard. Je voudrais rappeler que Malumalu 1 avait disposé de 36 mois. Nous avons commencé à préparer 2011 depuis 2007. Nous avons commencé à préparer 2018 depuis 2011. Et ici, nous avons commencé en octobre 2021 pour parer 2023, 26 mois tout au plus. Donc il faut qu'on tienne compte de cet élément-là. Et voilà, curieusement, on veut arrêter la machine et espérer les élections à la fin de l'année. Nous répétons pour la énième fois, et les compatriotes nous suivent. S'il y a des compatriotes qui estiment que ça ne va pas, il n'y a qu'une seule voie, c'est aller vers le Parlement. Sinon alors, qu'ils s'arrangent pour qu'il y ait je ne sais quoi, mais c'est pas à la CENI d'arrêter la machine, elle fait son travail à la même conscience, n'en déplaise à certains esprits, nous avançons.
C'était là Joseph Senda, directeur des opérations à la CENI. Luc Lutsala, vous êtes chargé de communication à la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, Simoncelles en sigle. Vous avez suivi les points de vue des uns et des autres par rapport au processus électoral en cours en RDC. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces différentes déclarations des acteurs politiques congolais, de l'opposition?
Ben, tout de suite, on a l'impression d'avoir un processus fracturé. Quoi. Alors, en voyant la CENI à son langage, dans son coin, et SID dans son coin, Ensemble dans son coin, et puis on a le FCC qui avait déjà lancé la danse de désistement depuis bien avant. Donc, à coup sûr, nous, en tant qu'observateurs, on regarde ça de dehors et on se dit ce processus part dans tous les sens. Ça, c'est la première image complètement visible que l'on a du processus. La deuxième chose qui apparaît tout à fait clairement, c'est on a l'impression d'être devant un dialogue des sourds entre les parties prenantes à ce processus. La CENI a complètement son langage et on a l'impression qu'elle parle sans être entendue. On a l'impression que les partis politiques parlent sans que la CENI les entende. Donc on est vraiment dans un dialogue des sourds. Et ça fait qu'il n'y a pas consensus. Ça fait qu'il n'y a pas confiance. Ça fait que finalement, il n'y a pas une cohésion. Mais en même temps, l'on va voir que cela vient complètement contredire l'objectif primaire de ce processus qui était la consolidation de la démocratie. La consolidation de la démocratie voulait dire, en fait, qu'enfin, on va avoir, c'est le quatrième processus, qu'enfin, on va avoir un processus au cours duquel les parties prenantes se sont mis d'accord sur les règles, les ont acceptées, et les parties prenantes vont concourir et que le meilleur gagne, et que on a moins de ce qu'on appelle les conflits électoraux, qu'on a moins de conflits électoraux après la proclamation des résultats. Mais le tableau qu'on a est que, visiblement, ce processus qui devait être celui de la consolidation de la démocratie ne tient pas le pari. Des quatre processus que l'on a, celui-ci est le plus fragile. Tous les autres processus passés n'ont jamais eu autant de crises à ce niveau ici. On est juste au niveau où la convocation va être faite, je crois dans 3 jours maintenant. Et on peut même dire qu'on a dépassé le pic, on est presque au pic de ce qu'on a connu, par exemple, sous Ngoï Mulunda et sous le Ross, avec les tensions qu'on a connues. Et donc, à écouter tout ce qui se passe, après on peut analyser, voir pourquoi tel parti, tel autre prend telle ou telle autre décision, mais manifestement, le constat, l'image que l'on peut garder, c'est qu'on est là devant un processus électoral complètement fracturé, et qui lance déjà la contestation de la légitimité avant même que l'on arrive à la proclamation des résultats.
Alors ce processus doit-il se poursuivre dans ces conditions, selon vous? Vous avez suivi Joseph Sinda de la CENI. Pour la CENI, les élections auront lieu en décembre, le train est déjà en marche, on avance.
Oui, aujourd'hui il n'y a plus 2 scénarios. Le seul scénario possible aujourd'hui, et on le dit déjà, c'est qu'on va aller aux élections. C'est le scénario probable à 99%.
Malgré les contestations.
Malgré les contestations, on ne voit pas la CENI arrêter, et on ne voit pas par quel chemin on peut arrêter ce processus. Ça paraît évident que la CENI tient à organiser les élections, que le gouvernement a investi tellement de l'argent, et que cet argent serait de l'argent jeté. Et nous l'avons dit déjà dès le départ, dès la publication du calendrier, nous avons dit tel que le calendrier était, on aurait les élections, mais quel type d'élections? C'est que les élections démocratiques qui soient crédibles, apaisées et qui consolident la démocratie. C'est de ça qu'on a besoin. Donc, il est presque évident qu'on va aller à des élections et que ces élections seront problématiques. Elles sont déjà problématiques. Alors, est-ce que les acteurs ont suffisamment de conscience pour avoir ce que Teilhard de Chardin appelait le regard astronomique, se dire dans 3, dans 4, dans 5 mois, où est-ce qu'on sera si on avance avec les mêmes paramètres. Mais à ce jour, je pense qu'on le dit tout le temps, on est en train d'aller vers une crise qui va être de plus en plus profonde, et on verra que, par exemple, l'opposition a 2 sens qui sont complètement maintenant de prendre la CENI et le pouvoir en tenaille. Ça veut dire l'action, la position de Marthe Toufaye, qui est celle de contester, déjà en amont, qui est soutenue aussi par le FCC, c'est de dire nous contestons. Mais on sait déjà que l'opposition parle la même voix. Maintenant, il y a des questions de moyens là-dedans. Et la position de ensemble, va exactement dans ma... qu'on va aller jusqu'au bout, mais on va aller jusqu'au bout, s'il y a tricherie, on va contester. Donc, dans tout le cas, et on sent que là, les positions sont bien fixées et qu'on avance vers un processus qui est hautement chaud.
Alors, les raisons avancées par les idées, par exemple, sont-elles fondées, selon vous, Luc Loutala?
Oui, la question du fichier électoral, c'est une des catastrophes que l'on puisse annoncer. Et on a toujours, du point de vue de l'observation, on s'est toujours demandé pourquoi est-ce que la CENI n'a pas réussi à créer le consensus autour de ces opérations. En fait, la chose la plus extraordinaire, quand on observe, c'est que ce processus, la seule institution qui pouvait créer du consensus autour des parties prenantes, recréer, c'est la CENI. Malheureusement, quand on observe comment la CENI a géré les différentes opérations électorales, on s'étonne que la CENI n'a fait que faire ce qui peut briser la confiance et le consensus. Alors, on est un tout petit peu complètement dépassé, on ne comprend pas. Est-ce que c'est la volonté de jusqu'au boutisme, c'est quelle volonté, mais la CENI n'a pas travaillé à créer le consensus. Et ça, c'est vraiment le vrai problème qu'il y a. Et ce qui fait que les parties prenantes ne se sentent pas concernées, vous savez, cette histoire de fichier électoral, l'audit qui est complètement biaisé, mais ensuite on a aussi qu'on a trouvé les problèmes majeurs de la constitution du fichier n'ont pas été résolus, n'ont pas été expliqués. Les machines, ce qui a été, les machines qui ont été trouvées chez des privés, qui ont quand même enregistré tout ce... Et donc il est resté énormément de questions sur lesquelles la CENI devait... On a demandé à la CENI de faire des cadres de concertation pour mettre les cartes sur la table et faire que les gens croient, qu'ils aient confiance. Malheureusement, la CENI ne l'a pas entendu de cette oreille-là.
Jonas Tchombela, vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Vous venez d'ailleurs de publier, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, un rapport sur le processus électoral en cours en RDC. Alors, votre analyse sur les différentes déclarations des acteurs politiques congolais de l'opposition? Certains qui décident de boycotter le processus électoral, ils ont des revendications, d'autres qui pensent qu'ils vont aller jusqu'au bout. Mais après, comme l'a dit Luc, s'il y a tricherie, il y aura contestation. Comment vous analysez toutes ces déclarations?
Merci beaucoup pour la question. Je vais vous dire que, si on peut nous citer, depuis que ça a commencé dans notre pays, depuis 2006, à quel tout le processus de 2006, 2011, 2018, il y a toujours des tensions au départ.
Comme celles que nous observons aujourd'hui.
Ce n'est pas du nouveau ça. Il y a toujours des tensions. Et puis, l'unanimité en démocratie n'existe pas. Il y a toujours ça. Ça fait partie de la santé même de la démocratie dans notre société. Il faut qu'on relativise les choses. Quant à dire que la CENI, par exemple, devrait créer un consensus, c'est... Quand ça vient d'un expert électoral, ça commence à me déranger. Parce que la CENI n'a pas mandat d'organiser des consensus. La CENI a mis en place des cadres de concertation. Il y a plus de deux jours, le cadre là, on a convoqué des partis politiques. Le problème, c'est que l'entendement de l'acteur politique du processus, si ce n'est pas dans le sens qu'il veut, et il veut à tout prix imposer son point de vue, c'est là que le bas blesse. Donc il n'est pas question de dire que si la CENI n'a pas mandat de chercher des consensus autour des parties prenantes, la CENI expose ce qu'elle a comme travail. On peut critiquer le travail de la CENI, ce qui n'est pas mauvais. Donc à ce stade, moi j'estime que le processus électoral a des soucis, ce qui est normal, dans un processus en Afrique surtout, voire un processus fiable, sain, c'est impossible en Afrique. Déjà on doit voir d'où nous sommes partis. Et la mise en place même de la CENI, ça n'a jamais eu de consensus depuis 2006 jusqu'à ce jour. Donc il n'y a pas eu de consensus. Même quand on évoque le cas de Ngoué Moulunda, ou pas de ceci, il y a des problèmes. Mais je ne vais pas justifier tout ça pour dire qu'on ne doit pas améliorer. Ce n'est pas ça que je veux dire.
Mais de façon générale, pour vous, vous estimez que le processus évolue bien, normalement?
Le processus évolue tant bien que mal. Parce qu'il y a des problèmes de finances. La CENI, en sortant le calendrier, il a ressorti ça avec des contraintes. C'est pour vous dire que la CENI elle-même comprend l'enjeu et les difficultés qu'elle a en train de subir. Donc, le calendrier était assorti avec des contraintes. C'est pour dire que si ces contraintes-là ne sont pas résorbées, il y a un risque qu'on n'ait pas d'élection. Mais maintenant, que les acteurs politiques demandent que nous puissions revenir sur le fichier électoral, que nous puissions revenir sur la Cour constitutionnelle. En même temps, la même opposition exige que l'élection ait lieu dans le délai. L'acteur de la CENI tout à l'heure venait de nous expliquer qu'il y a 28 mois de retard. Et vous savez, quand les Congolais se mettent à dialoguer, là où ça peut aller. À ce stade, qui peut prendre ces risques-là de violer la date qui est prévue par la Constitution d'obtenir les élections? Donc, en envoyant déjà...
Il faut organiser les élections.
Tout ça, ça devait venir réellement de vrais experts qui maîtrisent le problème d'audit des fichiers. Ça, c'est de la spéculation de la classe politique. Et nous, on ne va pas s'emballer dans cette dimension. Moi, je ne suis pas expert en matière d'audit, mais je m'improvise pour donner une opinion. Mais ces experts, quand la CENI a lancé l'appel, ils étaient où? Ils devaient aller postuler pour quand même qu'on voit tout cela. Et dans les partis politiques, comme dans nous, dans la société civile. Mais ces experts ne sont là que pour critiquer à distance. Pourtant, l'appel a été lancé à tout le monde. Donc, ces experts font semblant ou ils le connaissent ou ils ne sont pas experts. Alors, moi, je ne vais pas m'attarder sur ce terrain-là parce que l'appel a été lancé à tout le monde. Ces experts qui critiquent les fichiers aujourd'hui, ils étaient là, mais ils ne sont pas venus. Mais vous critiquez sans une autre alternative. Ça va nous donner quoi?
Donc, il faudrait pas que la CENI prenne en compte les revendications des acteurs politiques, de l'opposition.
Je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre les revendications. Ce n'est pas la CENI de prendre la revendication des partis politiques. C'est à la classe politique qu'il faut poser le problème. On pose le problème là où il ne faut pas le poser. Il faut aller vers la classe politique. C'est là où il y a le problème. La classe politique peut se mettre, elle peut décider. La CENI n'est qu'un organe technique. Mais demander à la CENI d'organiser du dialogue, de créer des conditions de consensus, c'est lui demander de ne pas faire sa mission. Je pense que cette question doit être posée au niveau de la classe politique. C'est elle qui peut, qui est habilitée à traiter ce type de problème. Parce que s'il y a dépassement du délai constitutionnel, ils peuvent endosser. Mais ce n'est pas à la CENI d'endosser cela. Donc moi j'estime qu'à ce stade, nous pouvons dire qu'on a tenté d'attribuer à la CENI un mandat qui n'a pas. Il faudra aller vers la classe politique. S'il y a des experts, soit internationaux, soit les hommes de bonne volonté qui peuvent les réunir, tant mieux.
Mais le cadre de concertation sert à quoi? Mais, entre la CENI et les partis prenants.
Mais c'est là que tout le problème devait se poser. Maintenant, tous ceux qui crient ne font pas confiance à ce cadre. Mais c'est de quel cadre on cherche encore? Parce que, dernièrement...
Ils ont exposé leurs problèmes, mais ils n'ont pas été entendus.
Mais ils cherchent quel type de cadre? Parce que le cadre existe. C'est là qu'il faut aller poser le problème. Sont-ils venus là-bas, on les a chassés? Moi, je n'ai pas vu ça. Je ne suis pas ici avocat de la CENI. Mais je constate que le cadre existe. Et c'est le contenu du cadre qui pose problème. Mais ça, ça ne devait pas être posé au niveau de la CENI. Moi, je pense que c'est au niveau de la classe politique qu'il y a un problème à résoudre. C'est parce qu'ils se méfient. La CENI est un organe apparemment technique qui fait son travail indépendamment des uns et des autres. Mais commencer à lui demander, le cadre existe avec la société civile, le cadre existe avec le parti politique, le cadre existe avec le FAM, le média et les autres. Mais ce cadre-là peut être exploité. Pourquoi ne pas aller dans ce cadre et poser le problème? Si la CENI estime que ce n'est pas dans son mandat, il peut le renvoyer là où il y a le problème. Quelqu'un venait de dire ici d'aller au Parlement, aller rencontrer ceux qui dirigent le pays. C'est là qu'il y a les décisions politiques. Les décisions politiques ne sont pas au niveau de la CENI.
Alors cet auditeur Blaise Mouawé pense qu'avec toute cette tension qu'on observe, les élections seront, ces élections seront les plus chaotiques et contestées que la RDC ait jamais connues.
C'est son point de vue, je le respecte. Moi, je ne suis pas en train de me projeter, je ne suis pas dit pour savoir ce qui va nous arriver le 20 décembre. Parce que dans ce pays, on a refusé la machine à voter. On nous disait que le ciel tomberait. Le ciel n'est pas tombé. Dans ce pays, les gens ne voulaient pas que les autres aillent aux élections. Le ciel n'est pas tombé, le Congo a continué de fonctionner. À ce stade, je pense que ceux qui pensent des choses comme ça, ils doivent leur donner le contenu. C'est ce contenu qui manque. Quand on parle de questions, des élections frauduleuses, des chaotiques, moi je ne comprends rien quoi. Il faut donner le contenu à ce que vous appelez chaotique pour que nous puissions comprendre. Et c'est de ce moment-là, on peut se faire une idée, voilà, il a raison, il n'a pas raison. Mais des mots qu'on utilise sans donner le contenu, ça pose des soucis. De compréhension.
Merci Jonas Tshombela, professeur Vodkabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique. Vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur, comment vous analysez cette situation?
Oui, merci pour la question et surtout pour le sujet. Ce qu'il faut déjà bien dire, qu'il faut bien analyser le contexte dans lequel on est en train d'évoluer par rapport au processus électoral. Donc pour l'instant, on a une espèce de machine, l'administration électorale, qui est en train d'évoluer dans son coin. Et l'évolution de sa machine électorale ne tient pas compte de ce qui est en train de se passer, non seulement au sein de la société civile, mais aussi de la classe politique. À titre d'exemple, la mission d'observation SENCO-SSC avait déjà mis sur la table plusieurs recommandations, plusieurs rapports, où on demandait à la CENI de pouvoir rectifier toute une série de choses, mais sur lesquelles il n'y a pas eu de réponse de la part de la CENI. Alors ça, c'est du côté, et puis il y a la société civile aussi, qui a aussi bien documenté le processus d'enrôlement, avec les failles et les différents problèmes qui ont été constatés, documentés, et sur lesquels il y a eu des preuves qui ont été déposées à divers niveaux, aussi bien au niveau de la justice, mais qu'au niveau de la CENI, pour lesquels il n'y a pas eu de réponse. Notamment les questions liées aux machines à voter, aux machines à enrôler, qui se sont retrouvées entre les mains des particuliers, pour lesquels on n'a pas de réponse. Toute une série, ce n'est pas qu'il y ait que quelques cas qui ont été constatés, pour lesquels on n'a pas eu de réponse. On a eu des machines qui n'ont pas fonctionné, on n'a pas eu de réponse. On a eu toute une série de remarques, des recommandations qui ont été données, sur lesquelles il n'y a pas eu de réponse. Alors, du côté de l'opposition, de la politique, on a en fait, il y a trois camps. Vous avez un camp qui est le camp de la majorité Union Sacrée, qui veulent aller absolument aux élections, mais je vais y revenir tout à l'heure. Et puis vous avez un autre camp qui est le camp constitué de l'opposition avec les quatre, c'est-à-dire Moïse Katumbi, Denis Sesanga, Batata ainsi que Fayulu, qui se sont inscrits dans les processus et qui se sont dit on va aller dans les processus et on va aller jusqu'au bout. Alors on a le cas de Kabila avec le FCC qui a pris une autre position, qui est de dire non, nous on ne veut pas cautionner un tel processus parce que nous avons déjà analysé que c'est un processus qui est biaisé, qui ne va pas aboutir à des résultats que la population congolaise attend. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ça? Cette position, par exemple, par rapport à la position du Kabila, prend de plus en plus de l'ampleur et que Fayulu, en décidant de ne plus participer à un processus pour lequel il juge qu'il y a des failles, et les failles supposent qu'il va y avoir fraude, qu'il va y avoir non-élection, qu'on va aller plus dans un système de hold-up, comme lui-même il le dit, de hold-up, il ne veut pas adhérer à ça. Et il va dans le sens donc de la famille politique de Joseph Kabila. Mais il reste dans le clan Katumbi, Sesanga et Matata, qui reste encore, en fait, qu'il y croit encore. Mais au vu de la situation comme elle est en train d'évoluer, avec la dimension non seulement du processus technique, mais aussi des contextes dans lesquels ces élections sont en train d'être planifiées et organisées, il ne serait pas étonnant que dans les prochains jours, qu'on apprenne que plusieurs autres acteurs politiques se désolidarisent de ce processus électoral. Parce que un des éléments essentiels qui est le fichier électoral, et il va maintenant de plus en plus à être confirmé, puisque même la CENCO, qui a observé, qui a été avec le CC dans l'observation du processus d'enrôlement, commence à dénigrer et à désavouer la liste électorale telle qu'elle a été auditée. On a déjà eu une mission il y a quelque temps sur ce fichier électoral. Et je vous l'ai dit la fois passée, il est impossible de pouvoir auditer un fichier électoral de 49 millions d'électeurs en quelques jours, et en quelques jours, en deux jours, un jour, écrire un rapport de 150 pages dans lequel qu'on diffuse. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire de manière très claire que tout le processus, dès le départ, nous le savons que le processus est biaisé, et il y a les éléments qui le prouvent et qui nous démontrent que le processus est biaisé, que nous irons dans ce qu'on peut appeler dans le langage électoral open bar, ça veut dire que tout le monde va aller voter comme on a envie d'aller voter, et puis deux jours après, qu'est-ce qui va se passer? On aura la CENI qui va aller déclarer des résultats qui ne seront même pas des résultats qui seront consolidés, puisqu'il n'y a pas de fichier électoral. Pas de fichier électoral, ça veut dire que tout le monde peut aller voter là où il veut, et on aura des résultats qui seront Capharnaüm, et le processus sera aussi Capharnaüm.
Alors, vous parlez d'un processus qui est déjà biaisé. Alors, puisque vous estimez que ce processus est biaisé, qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce que la CENI devrait répondre aux revendications des acteurs politiques de l'opposition pour crédibiliser ce processus. Mais entre-temps,
oui, il faut
d'abord respecter se rendre le délai constitutionnel.
Le péché est originel. Tout à l'heure, on a entendu les représentants de la CENI qui parlaient des retards pris dans le processus électoral, ce processus électoral de 2023. Normalement, en tant que responsable de pouvoir une institution, lorsque l'on constate qu'il est impossible de pouvoir réaliser les élections dans les délais constitutionnels du fait qu'il y a ce retard de ce qu'il a été dit, il est responsable de pouvoir l'annoncer de manière très claire et de trouver des solutions en amont et de ne pas attendre arriver au bout de constater qu'il est impossible de pouvoir arriver à ce processus et de commencer à crier que non, on a eu du retard. C'est qu'en tant que responsable, on aurait dû déjà, dès le départ, le dire, il est impossible d'arriver à organiser un processus électoral dans les délais. Par ailleurs, je dois vous avouer aussi, quand on parle de processus électoral, on pense toujours à la date où on doit déposer le bulletin dans l'urne, madame. Mais pour déposer le bulletin dans l'urne, il y a toute une série de procédures qui sont en amont, notamment ce qu'on va appeler l'achat de ce qu'on appelle le matériel sensible. Quand on dit matériel sensible, ça veut dire on ne sait pas s'il va y avoir la machine à voter, on ne le sait pas encore. Est-ce qu'il y aura des bulletins, on ne le sait pas. Mais il faut les urnes, il faut toute une série de matériels, les encres, il faut toute une série de bics qui doivent être commandées, etc. Des imprimantes pour imprimer une liste électorale qu'on ne sait pas si elle existe. Et donc il y a tous ces processus-là et dont le chiffre varie. De l'expertise que nous avons depuis quand même les processus de 2006, 2011 et 2018, par rapport à des matériels sensibles, c'est quand même des gros montants, c'est des montants qui se chiffrent à des centaines de millions de dollars qui doivent être commandés et livrés et répartis sur tout le territoire de la RDC. Est-ce que la RDC, au jour d'aujourd'hui, a les moyens de pouvoir commander dans les délais qui restent, en connaissant très très bien qu'on est dans des conditions difficiles au niveau international, difficiles, c'est-à-dire la production, et puis l'expédition du lieu de production jusqu'au Congo, ça veut dire un avion, le coût que ça coûte, et puis de l'avion à Kinshasa ou bien dans le hub au niveau des différentes provinces, comment on va déployer tout ça? Ça demande beaucoup de moyens. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que la RDC a les moyens de pouvoir payer tout ça? C'est une question qui a été posée, sur laquelle il n'y a pas encore de réponse. En fonction de tout ça, donc on peut déjà logiquement commencer à s'imaginer, comme Fayoulou a déjà essayé de dire « je ne veux pas aller à ces élections dans le contexte actuel », mais il ne s'est pas désisté, il a dit « il ne peut pas aller aux élections dans le contexte actuel », il attend un autre processus qui soit beaucoup plus clair, sur lequel il pourra se positionner.
Alors et cet donc, autre processus, professeur, déjà dimanche le 25, c'est la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Vous pensez que la CENI va accepter de stopper tout pour... voilà.
La CENI ne va pas stopper pour la bonne et simple raison que la CENI, elle est dans son pipeline. Elle essaye de tout faire pour arriver à tenir le délai dans des conditions catastrophiques. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'agents de la CENI ne sont pas payés. Beaucoup d'agents qui ont fait les opérations ne sont pas payés parce qu'il n'y a pas de financement et qui arrive de manière régulière et qui arrive de manière continue. Puisqu'on ne connaît pas le budget de la CENI, on ne connaît pas le plan de décaissement, on ne sait pas ce que la CENI a besoin parce que simplement tout ça est aussi opaque. Et alors tout ce processus tel qu'on est en train de le voir, cela démontre de manière très claire, sans ambiguïté, que nous allons véritablement droit dans le mur et que si on n'a pas des élections, que la CENI n'y arrive pas, il peut arriver la question liée au financement. On oublie la question sécuritaire. Vous oubliez que le M23 continue d'avancer sur le terrain, continue d'avoir le terrain. Vous oubliez Codeco. Vous oubliez les groupes armés dans le Sud Kivu. Vous oubliez les groupes armés dans l'Ituri. Est-ce que dans tous ces processus qu'on est en train de dire, on va déployer des matériels sensibles qu'on n'est pas sûr de pouvoir avoir dans ces zones-là, avec l'accord de qui, avec la sécurisation de qui? Ce n'est pas les forces des African Community qui vont le faire,
merci.
C'est pas la SADC qui va le faire, c'est pas la MONUSCO qui va le faire, c'est pas les FADC qui vont le faire.
Merci, professeur. Place à présent aux auditeurs qui sont très très nombreux à nous appeler pour intervenir aussi dans cette émission sur le processus électoral en cours avec les différentes déclarations des acteurs politiques de l'opposition. On va se rendre à Beni, dans la province du Nord Kivu, pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, Luc Loutala.
Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Tout en saluant le travail abattu jusque-là par la Commission électorale nationale indépendante, vous allez comprendre avec moi que tous ceux-là qui s'attendaient à un glissement précédent d'un dialogue politique en vue de partage du pouvoir pour se refaire une santé financière avant la tenue des élections de décembre prochain sont pris de court par la CENI. Cependant, à tous ceux-là qui veulent jouer au boycott, ils doivent comprendre que la politique de la chaise vide a déjà montré ses limites dans ce pays. D'ailleurs, sur le plan historique, l'histoire nous renseigne que Étienne Tshisekedi l'avait déjà expérimenté, mais cela n'avait pas pour autant empêché la Kabylie d'organiser et remporter les élections en leur mode. Et d'ailleurs, en 2011, le sphinx de l'IMETE va également donner le mot d'ordre aux députés de l'IDPS de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, et on connaît tous la suite.
Luc Loutala.
Mais la question nous ramène au cœur même du problème, quoi. Et je rappelle que la mission de, en fait, l'objectif qu'on a signé à ce processus, c'était la consolidation de la démocratie. Alors, nous, en tant qu'observateurs, on n'est pas des politiciens, on n'est pas des avocats de la CENI, on n'est pas là pour tuer la CENI. Nous, on observe les faits, les choses telles qu'elles se passent, au regard de la loi, au regard des standards de ce qu'on appelle la démocratie. Et nous disons les faits. Et donc, je ne vais pas me donner la tâche d'aller dans être accusateur ou avocat de la CENI. On laisse ça à d'autres. Mais ce qui se passe est ceci. La CENI est l'organe de gestion des élections. C'est une institution d'appui à la démocratie par excellence. La charge d'organiser les élections revient à la CENI en primeur. Et donc, la CENI va gérer les élections en respectant le cadre légal et en respectant ce qu'on appelle les standards de ce qu'on appelle la démocratie. De ces standards, nous en avons plusieurs qu'on appelle des principes directeurs. La CENI ne peut pas se dire qu'elle va gérer le processus pour elle-même, qu'elle est sur une tour d'ivoire, qu'elle ne peut pas entendre ce que dit la société civile, qu'elle ne peut pas entendre ce que disent les partis politiques, qu'elle ne peut pas les mettre autour d'une table pour écouter et avancer. La CENI n'est pas un robot électoral. La CENI, c'est vraiment l'organe au centre de l'organisation des élections. Et dans sa façon de gérer les élections, elle doit respecter les principes directeurs, dont on ne peut pas enlever le consensus et la confiance. Et on se rend compte que, à défaut de se cacher, il y a beaucoup de gens qui conseillent sûrement la CENI de dire qu'il ne faut pas écouter les opposants, les autres. Malheureusement, ça aide la CENI à ne pas voir les problèmes et à ne pas les résoudre. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème qu'on ne voit pas. Malheureusement, le constat qui est là est simple. Aujourd'hui, il n'y a pas consensus autour des élections. Il n'y a pas confiance dans la CENI. Et donc, quand il n'y a pas consensus et qu'il n'y a pas confiance, qu'est-ce qu'on aura ? On aura complètement l'opposition. Ça veut dire qu'on aura des contestations. Et on va préparer les conflits post-électoraux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite ça?
Alors, il y a Charles Tokenyo qui nous écrit, hein, qui nous suit en direct sur Facebook, qui pense que l'opposition cherche plutôt qu'il y ait glissement pour que les négociations se tiennent afin de leur permettre d'intégrer dans les institutions.
Oui, mais parfois, certaines déclarations de certaines officines politiques laissent penser qu'il y en a qui veulent des négociations. Mais là, il faut rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a le délai légal et puis il y a la vitesse des croisières que la CENI a prise, mais en même temps, il y a la dynamique même de gestion du processus qui fait qu'au niveau où nous sommes aujourd'hui, je ne vois pas mathématiquement dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait avoir un glissement. Aujourd'hui, c'est tout à fait clair que la CENI va tenir en son calendrier et il va y aller quoi qu'il en coûte.
Jonas Chamela, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Alpha Ben Sivak, depuis la ville de Kisangani, province de la Tchopo. À mon humble avis, la CENI nous a fait savoir dans la facilité qu'elle n'est pas impartiale. Elle est plutôt bras séculier du gouvernement en place. Actuellement, la CENI et les gouvernements en place ne savaient pas les corollaires de leur union indéfectible. C'est pourquoi ceux qui voient loin ont vu les dangers auxquels les élections vont nous amener. D'ailleurs, l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound l'avait très bien prédit que les gouvernements en place Adore est déjà préparé les députés et sénateurs du mandat prochain et les élections à venir ne sont qu'une mascarade. La CENI devrait écouter toutes les parties prenantes pour élever les défis ensemble. Dans les cas contraires, je présume qu'il y ait l'hécatombe dans les jours à venir.
La CENI devrait écouter toutes les parties prenantes, Jonas Tchombela. Cet auditeur rejoint un tout petit peu l'analyse de Luc Loutala et même du prof Bob Kabamba.
Oui, c'est leur point de vue, je les respecte. Je ne sais pas, ils sont prophètes, hein. Il voit ce qui va nous arriver
mais
déjà
on
le 20.
Tout ce qui se passe, oh, oui, mais de tout cette tension qu'on observe.
Il y a même quelqu'un qui a venu de dire là, tu sais qu'il dit, c'était retiré du processus en 2011. Il a donné le mot d'ordre à ses députés, c'est qu'ils soutiennent aujourd'hui que l'opposition, moi je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, ce que les opposants disent ou ce que la majorité disent, ils doivent avoir raison, c'est de leur droit le plus légitime. Mais ce que moi je constate, qu'il y a une sorte de dramatisation. Je reviens sur la question de mon compatriote. Je vais lui dire ceci. Le professeur venait d'évoquer le cas des remarques de la CENCO et CC. Le professeur a oublié aussi qu'ils étaient dans la course pour arriver à la CENI. Est-ce qu'ils peuvent mettre un point de vue objectif vis-à-vis de cette institution qu'ils convoitaient? Voyez déjà.
Non, mais, vous estimez que...
Oui, j'analyse comme eux. J'analyse comme eux.
C'est pour dire que
tout ce qui est en train de se faire, là on voulait, quelqu'un qui était votre adversaire, maintenant qu'on le met, qu'on place en position d'arbitre, va-t-il vraiment donner une opinion objective? Ça ne va pas marcher. Je pense que les compatriotes, c'est vrai, on le fait peur. Moi, je ne suis pas de la CENI pour savoir ce qui se tisse dedans, mais je constate qu'il les opposants et ses compatriotes, ils posent le problème au mauvais endroit. Parce que moi, j'estime que le problème doit être résolu dans la classe politique. Ce n'est pas la CENI de créer des dialogues, des consensus. Ce n'est pas la CENI, ce n'est pas sa mission. Mais je pense, ici, la CENI...
On parle de discussion, alors...
Mais il y a des cadres de concertation qui existent.
Justement, est-ce que les opposants, ils sont écoutés lorsque vous vous retrouvez dans ce cadre de concertation?
Est-ce qu'ils viennent d'abord dans ce cadre? On doit les écouter où? Est-ce qu'ils viennent d'abord dans
ils
ce cadre?
Ils boycottent ces cadres.
C'est ça le problème. Ils cherchent le cadre de concertation.
Je ne la trouve pas, je pose la question.
Oui, mais je vous dis, mais ils ne viennent pas. Mm-hmm. Ils ne viennent pas. Moi, j'ai vu, il y a deux, quelques, trois, quatre jours, il y a le cadre de concertation qui s'est tenu au niveau des ministères des Affaires étrangères, avec la société civile, la réunion avec la société civile s'est tenue ici sur Kassai. Mais c'est des endroits où ils peuvent poser le problème. Mais ils ne viennent pas. Alors, est-ce qu'il faut que la CENI aille le chercher ou bien ils doivent aller vers la CENI? Tout le problème est là-bas. Mais je pense que les problèmes qui sont en train de poser, c'est un problème qui touche aux institutions, c'est au niveau de la classe politique qui devait poser ce problème. Il est légitime. Ce n'est pas à la CENI. La CENI, elle est en train de faire ce qu'elle fait, que je ne dis pas que c'est parfait. Il y a toujours des insuffisances. Vous avez dit tout à l'heure que nous avons publié un rapport. Et dans ce rapport, nous avons relevé beaucoup de dégâts. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit occulter ce qui est en fait. Le problème doit être posé à la classe politique. Le prophète qui voit déjà que le 20 décembre, il y aura le chaos, bon, arrivons encore le 20 décembre, on verra.
Professeur Bob Kabamba, on va prendre aussi pour vous cette réaction de Kinshasa.
Japhet Eunga, depuis la ville de Kinshasa, en suivant les sorties médiatiques des opposants, nous constatons que l'opposition ne parle pas le même langage. Ils doivent se trouver ensemble et parler afin de lever des options qui amènera la CENI et les autorités congolaises à écouter leurs revendications. Mais s'ils veulent aller à l'ordre dispersé, leur revendication ne sera pas écoutée et donnera la force à la majorité actuelle. Nous demandons à la CENI et au gouvernement actuel d'écouter aussi les revendications de l'opposition pour éviter les jours à venir des protestations car les Congolais en ont marre de mourir encore à cause des élections.
Alors je vais ajouter une autre réaction qui nous vient de Facebook, Didier Kazadi, qui demande si la CENI commence à écouter tout le monde. Est-ce que vous pensez, professeur, que cela va faire avancer les choses?
Merci en tout cas pour la question par rapport à, surtout à l'auditeur de Kinshasa. Il a tout à fait raison en parlant de l'opposition, mais il faut aussi se rendre compte, il faut bien tenir compte du contexte. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux pôles dans l'opposition. Vous avez un pôle qui refuse le processus avec des conditions que Fayulu est en train de rejoindre ce pôle-là. C'est un pôle avec Kabila. Et vous avez le pôle de Katumbi, Sesanga et Matata qui veulent y aller. Ce qui veut dire par rapport à l'opposition, ce n'est qu'une analyse, ce n'est pas que je suis de l'opposition ou quoi. Ce qui veut dire, c'est que simplement, l'opposition, ce qu'elle fait, c'est de tenir le pouvoir en tenaille. Entre d'une part ceux qui refusent, d'autre part ceux qui y sont, en sachant très bien que c'est deux pôles qui sont très forts, pour lesquels il pourra toujours tenir compte. Si un scénario ne marche pas, l'autre scénario va encore marcher. Alors, il y a un problème très sérieux, c'est lequel? C'est le problème de la violence préélectorale que nous avons déjà commencé à observer sur le terrain. C'est-à-dire que, avec tout ce qui est en train de se passer, pourquoi est-ce qu'on dit en tant qu'analyste, c'est pas qu'on est des prophètes, mais nous sommes des analystes et qu'on arrive à pouvoir analyser les faits, et en analysant des faits, on peut arriver à faire ce qu'on appelle les hypothèses, et les hypothèses qu'on est en train de donner, avec partager avec les auditeurs. C'est que, avec ce contexte, vous avez des contextes, des gens qui ont des ancrages locaux et régionaux, et quand ils contestent un processus, on n'est plus en 2006, on n'est plus en 2011, on n'est plus en 2018, nous sommes en 2023, et à chaque fois quand on regarde les différents processus, on a toujours eu une élévation de violence à chaque élection. Mais cette élection aujourd'hui nous présage que la violence sera beaucoup plus importante, puisqu'il y aura une violence communautaire dans beaucoup de circonscriptions et dans beaucoup de régions par rapport au contexte. Et c'est pour ça que je dis, et je le répète, qu'au niveau de la CENI, le problème c'est qu'ils sont restés dans leur schéma coûte que coûte, on y va, et coûte que coûte, on y va, en sachant très bien qu'ils ne vont pas y arriver, et ça veut dire qu'on continue progressivement à renchérir et à alimenter le sentiment qu'il va y avoir un vol électoral. Et le discours des politiciens est de plus en plus violent. Et lorsqu'on parle des discours de plus en plus violents, ça veut dire que nous allons, de manière très claire, dans une violence préélectorale, en ne sachant même pas très bien que les élections du 20 décembre auront bel et bien lieu, et surtout dans quel contexte. Et je rappelle encore une fois,
ça sera votre conclusion, professeur.
Il y a le Codeco, il y a le 23, il y a toujours le Codeco, et on ne sait pas ce que le 23 va faire, on ne sait pas ce que le Codeco va faire, on ne sait pas ce que les groupes armés qui vont le faire, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, et donc il est prétentieux de ma part de penser que la CENI va aller bon homme de chemin sans tenir compte de tout ce que je viens d'avancer.
Merci, professeur Bob Kemamba. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Luc Loutala, nous sommes à la fin de notre débat. Votre conclusion, l'avenir de ce processus électoral.
Madame, les élections sont un intérêt national. Avoir des bonnes élections, ça aide la nation à se développer, à garder la cohésion nationale, à aller de l'avant. Donc nous avons tout à gagner à avoir de bonnes élections. Et tenir compte même des minorités, parce qu'on ne peut pas faire des élections en disant on va exclure ceux-ci qui sont des cons, qui sont des malades, il n'y a que nous les intelligents, nous sommes sur notre tour d'ivoire. C'est complètement se fermer les yeux et détruire la démocratie et jouer contre la nation. Ce à quoi nous appelons, et la CENI et les parties prenantes, sans aucune exclusion, c'est de tenir la concertation. Se concerter, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre d'accord sur ce qu'on doit faire. Et les cadres, les prétendus cadres que la CENI organise, n'en sont pas un. C'est des cadres des conférences où la CENI, comme un maître d'école, arrive, pompe son discours, sans un agenda dans lequel il y a des matières à discuter avec les autres, ou dans lesquelles les autres sont organisés. Tout ce que nous avons fait, c'est conseiller la CENI à bien faire. C'est appeler les autres parties prenantes et la population à participer, et chacun à jouer pour que ces élections soient des élections apaisées.
Merci Luc Loutala, chargé de communication à la synergie de mission d'observation citoyenne des élections. Simon Sel, en sigle Jonas Tombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Votre mot de la fin, votre conclusion.
Oui, je pense que nous allons relativiser les choses au lieu de dramatiser. parce que les élections sont en train d'être préparées dans notre pays. Le cadre de concertation, tout ce que j'entendais ce soir, je voulais entendre le cadre légal. L'article tel de la Constitution, de la loi électorale, dit ceci, la CENI n'a pas pu faire, il n'a pu faire. Mais les revendications de nos compatriotes de l'opposition doivent être prises en charge par la classe politique. La CENI doit travailler davantage pour s'ouvrir, pour créer les conditions de confiance pour qu'on ait des élections dans les délais constitutionnels. Ceux qui estiment qu'il faut organiser des dialogues pour se retrouver au pouvoir et violer la Constitution et violer les délais, je pense que nous ne serons pas dans cette direction-là. Allons dans la direction de la recherche et de la confiance autour du processus, au moins dans la classe politique. La CENI doit davantage s'ouvrir, et s'il y a des failles, elle doit s'ouvrir aux autres parties prenantes pour connaître des élections libres, démocratiques, inclusives.
Merci Jonas Tchombela, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Vous avez été très très nombreux, chères auditrices et auditeurs de Radio Okapi, et aussi chers internautes sur la page Facebook de Radio Okapi. Merci à Guy Maté et Donna Madimba qui ont réalisé cette émission. La mise en onde était assurée par Bob Landou. Si vous nous avez suivis sur Facebook, c'est grâce à Jonathan Fonani et Clément Chimanga. Moi, c'est Kéline Couté. Je vous ai présenté cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.